Carrément Sport sur RTL Équipe, Frédéric Schweiker.
Allez, c'est parti pour une heure de Carrément Sport, votre émission Omnisport pour connaître tout ce qui se passe dans l'actualité sportive. On commencera avec du football, avec Salim Mangali, l'un de nos spécialistes football ici à RTL Équipe. Nous ferons un nouveau point sur l'actualité des transferts, des pistes qui semblent se préciser, des joueurs qui sont courtisés de toutes parts. On pense notamment à Blaise Matuidi, le milieu international de Saint-Etienne, qui après avoir reçu des avances du Paris Saint-Germain pourrait également aller à Newcastle. C'est également bien parti pour tout l'allant du côté de Malaga. Et de son côté, Adil Rami, lui, va être officiellement présenté à Valence aujourd'hui. L'ancien défenseur donc désormais du club lillois avec qui il a été champion de France cette année. Le tennis également, avec un Jori Fritsonga qui n'est pas passé loin hier de remporter son premier tournoi sur gazon. C'était au Queens. Jori Fritsonga qui a perdu en finale face au local de l'étape, le britannique Andy Murray, 3-6, 7-6, 6-4. Un Jori Fritsonga rassurant, en tout cas désormais à quelques jours maintenant du début du tournoi de Wimbledon. Le judo, ensuite notre traditionnel page judo à 10h45 comme tous les mardis. Nous serons avec René Rambier, le responsable du haut niveau du judo français, pour faire un point sur la sélection masculine et féminine. Les sélections masculines et féminines en vue des mondiaux qui vont se tenir à Paris au mois d'août prochain. On rappelle que la liste sera dévoilée cet après-midi à 17h et nous serons également avec Jean-Marie Coutsal, le nouveau président du club de Levallois qui a été champion de France par équipe masculine et féminine. C'était ce week-end avec notamment un Teddy Riner encore une fois éblouissant dans la catégorie des hommes. On parlera également dans cette émission de basket avec Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui va dévoiler à 13h30 aujourd'hui une liste réduite de 15 à 16 joueurs en vue de l'Euro 2011 pour la Lituanie. On rappelle que la liste finale comportera 14 noms. On devrait retrouver beaucoup de joueurs NBA. On pense notamment à Joakim Noah ou à Tony Parker. Quelques revenants, ce serait notamment le cas de Michael Pietrus. Et là, un absent qui est quasiment certain, c'est Rodrigue Beaubois. Beaucoup plus d'explications dans la deuxième partie d'émission, aux alentours de 11h05 avec Arnaud Lecomte du quotidien L'Équipe. Cette nuit, Boston continue de faire de la résistance en hockey sur glace en finale de la Stanley Cup. Les Bruins de Boston sont venus à égalité 3 partout en finale face aux Canucks de Vancouver. Une victoire 5-2 cette nuit. Nous serons avec le président de la Fédération française de hockey sur glace, Luc Tardif, pour revenir sur cette victoire de Boston. Et en fin d'émission, souvenirs de sport avec un grand nom de la chanson internationale qui va nous raconter ses plus grands souvenirs de sport en compagnie de Guillaume Laniel et de Christian Panvert. Voilà, le nom m'échappait, c'est Phil Collins. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure de Carrément Sport.
Carrément Sport, c'est sur RTL L'Équipe.
Et donc on commence avec le foot pour cette émission aujourd'hui, ce mardi 14 juin, l'actualité des transferts avec Salim Mangali. Salut Salim.
Salut Fred, et la musique est très sympa.
Elle vous plaît la petite musique, hein, d'Arnaud Grassin qui est derrière la vitre pour nous préparer cette émission, nous l'habiller comme on dit. Salim, l'actualité des transferts, je le disais, certains clubs s'activent. On m'a parlé notamment de Bordeaux qui serait sur plusieurs pistes. Un mot tout d'abord de Blaise Matuidi, le Stéphanois qui est courtisé de toutes parts. On a parlé de lui hier au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, la piste semble plutôt se diriger vers Newcastle en compagnie de Yoann Cabaye. Il est courtisé un peu partout, le milieu de terrain international de Saint-Etienne. Hein.
On va dire comme chaque année, hein, il est courtisé, mais là cette année un peu plus que les autres années, on va dire, ainsi du reste. 2 années de contrat, donc dans l'esprit, en règle générale, lorsqu'il reste 2 ans à un joueur, on le laisse encore une année dans son club pour le prendre justement sur sa dernière année de contrat uniquement. Sauf que là, effectivement, Blaise Matuidi a fait une bonne saison avec la SSE, a été sélectionné en équipe de France. Vous évoquez l'intérêt du Paris Saint-Germain, on en parlait déjà hier, même si Roland Romeyer, le président de Saint-Etienne, évoquait une prime de départ, en tout cas une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Mm-hmm. Ça paraît absolument affolant pour un joueur qui certes a fait une bonne saison avec la SSE, mais qui a aussi été par moments un petit peu quinquas.
Ah, et donc c'est son statut international qui fait gonfler également le chiffre.
Comment ?
J'imagine que c'est également son nouveau statut d'international qui fait gonfler la somme.
Voilà, comme pour d'autres joueurs, on pense évidemment à Marvin Martin, mais effectivement pour Blaise Matuidi, cette saison a été donc plutôt donc réussie, et Newcastle, ça sur le rang, Newcastle qui d'ailleurs pioche pas mal hein, en Ligue 1, il faut rappeler que le club Magpies a aujourd'hui 40 millions d'euros à dépenser, 40 millions d'euros obtenus lors du dernier transfert d'Andy Carroll en direction de Liverpool, et ces 40 millions d'euros, de ces 40 millions, il lui reste encore 35, puisqu'il a dépensé environ 5 millions pour Yoann Cabaye, et donc Blaise Matuidi voudrait, selon selon certains spécialistes, entre 8 et 9 millions d'euros. Et Newcastle serait à même de les dépenser, ces 8-9 millions, contrairement au Paris Saint-Germain qui attendrait un petit peu et qui essaierait de négocier vers la baisse ce prix-là. Contrairement à ce que la SSE demande, la SSE, on rappelle encore une fois, demande 15, quand on sait que la prime libératoire est à 12 millions d'euros. Bref, Saint-Etienne rêve sans doute un tout petit peu.
Oui, effectivement, peut-être qu'ils voient un petit peu haut les dirigeants stéphanois. Donc, vous le précisez, hein, Johan Cabaye qui également va prendre la direction des Magpies. Un mot sur Bordeaux, on le disait, pour l'instant un petit peu discret, hein, le champion de France 2009 sur le marché des transferts. Ça semble s'activer un petit peu. Il y a la piste de plusieurs Sochaliens. On pense notamment à Maurice Bellé, le Lancéen Landry Nguemo, le Lillois Pierre-Alain Froh. Beaucoup de pistes, mais pour l'instant, rien qui se concrétise du côté de la Girondin.
Ouais, des rumeurs uniquement du côté du club girondin. Alors, le premier dossier a été bouclé, celui de l'entraîneur Francis Gillot.
C'est ça.
Et depuis qu'il est arrivé, ben, effectivement, des noms tout d'un coup sont évoqués, des noms, on veut dire, un peu plus huppés, en tout cas des joueurs qui sont des bons joueurs de Ligue 1. Vous évoquez il y a quelques instants Pierre-Alain Froh, qui est l'un des attaquants sûrs de cette Ligue 1. Il va quitter Lille, on le sait bel et bien. Plusieurs propositions s'offrent à lui, et celui des Girondins de Bordeaux l'intéresserait sans doute. Lui qui a côtoyé, évidemment, Francis Gillot, que ce soit à Sochaux ou même au Racing Club de Lens. Donc, paf, qui pour l'instant hésite encore pour bel et bien se décider pour rejoindre le club de Bordeaux. Il y a un autre dossier qui, lui, par contre, est un petit peu plus compliqué. Vous évoquez Landry Nguemo, le joueur de l'AS Nancy Lorraine, et lui également courtisé au milieu de terrain. Sauf que Nguemo, il y a aussi d'autres pistes et d'autres solutions. On pense soit à la Grèce, soit même d'autres clubs français. Donc, pas sûr qu'Nguemo puisse arriver donc dans ce club des Girondins de Bordeaux. Et le dernier dossier, c'est Nicolas Maurice-Belet. Il est gratuit en fin de contrat dans ce club de Sochaux. Et Maurice Belet, contrairement à d'autres, il peut patienter, il peut attendre tranquillement. Donc, on peut penser à Maurice Belet, surtout que le président Trio lui-même l'avait dit lorsque Gillot était arrivé au club de Bordeaux. Si mon coach a besoin d'un joueur de Sochaux, on fera en sorte de l'avoir. Le joueur en question, c'est Nicolas Maurice Belet. Et en plus, il est gratuit, donc on peut supposer, j'ai pas l'impression de m'avancer d'un an, que Nicolas Maurice Belet sera bel et bien Girondin dans les prochains jours.
Un mot également du côté de l'Espagne, où là aussi ça bouge un petit peu pour nos Français. Malaga qui fait vraiment le forcing pour faire venir Jérémy Toulalan et qui semble de plus en plus laisser de côté la piste Lucho. Et Valence, où Adil Rami va être officiellement présenté aujourd'hui.
Voilà, effectivement, c'est deux dossiers. Tout d'abord, concernant Jérémy Toulalan, l'incertitude, même si ça se tourne de plus en plus vers une concrétisation. Malaga s'intéresse, on le sait, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, au milieu de terrain lyonnais. Jérémy Toulalan, qui a déjà, d'ailleurs, visité les installations du club espagnol. Les dirigeants de Malaga vont venir aujourd'hui à Lyon et s'y négocier donc le transfert du milieu de terrain. Lyon en demande 13 à 14. Malaga en a proposé 8. Il y a, vous l'aurez compris, un désaccord. On va peut-être réussir à négocier aux alentours des 10, 10,5. Le transfert du milieu de terrain. Vous évoquez Lucho également, la piste semble de plus en plus refroidie, surtout depuis l'appel de Didier Deschamps ce week-end envers son milieu de terrain argentin. Deschamps a appelé donc son milieu de terrain pour lui dire reste encore cette année. Peut-être que Deschamps au final aura eu des garanties de la part de Vincent Labrune et encore Margarita Louis Dreyfus. Enfin, vous évoquez Adil Rami. Il y a pas mal de choses quand même concernant ce dossier. Pourquoi ? Parce que Adil Rami, on le sait, hein, devait arriver évidemment à Valence. Ça a été donc officialisé pour le défenseur qui va être présenté à la presse aujourd'hui, mais qui dit départ de Lille, dit forcément arriver à Lille aussi pour le remplacer. On pense notamment à un joueur qui pourrait bel et bien revenir dans le championnat de France, c'est Marco Bacha. Belles heures du club du Mans. À l'époque, il avait été désiré notamment par Paris Saint-Germain, mais il avait préféré répondre aux sirènes du club du Lokomotiv Moscou, sirènes sonnantes et trébuchantes, on l'aura compris. Sauf que Lokomotiv, il n'est plus très intéressé par ce championnat et par le club. Résultat, un retour en Ligue 1 l'intéresserait énormément. Et retrouver surtout Rudy Garcia, qui l'a connu au Mans, justement, ça l'intéresserait encore plus. C'est pour cette raison que cette piste semble de plus en plus sérieuse et de plus en plus intéressante pour retrouver donc Marco Bachat dans la défense centrale lilloise la saison prochaine.
Eh bien, merci beaucoup Salim Mangali d'avoir été avec nous ce matin pour une nouvelle fois faire un point sur cette actualité des transferts toujours aussi riche et toujours pleine d'enseignements. On verra si les choses vont un petit peu se décanter dans les jours à venir. On suivra ça, bien évidemment, que ce soit tous les matins dans Carrément Sport, mais également tous les soirs à partir de 16h30 dans Carrément Foot en compagnie de Raphaël Sebaoun. Merci beaucoup Salim, à très bientôt sur RTL L'Équipe.
Tous les jours sur RTL L'Équipe, c'est Carrément Sport. Barbara Streisand.
Allez, des pelouses de football, on passe au gazon de tennis avec hier la clôture du tournoi de Queens. C'est la finale remportée par Andy Murray face à Joe Wilfried Tsonga. Le français s'est pourtant bien battu. 3-6, 7-6, 6-4 pour le britannique. Pour en parler avec nous, Julien Varlet, notre voix tennis, est avec nous. Salut Julien.
Bonjour Fred, bonjour à tous.
On le disait, Joe Wilfried Tsonga qui n'est pas passé loin de la victoire. Il a même, il aurait pu servir pour le gain du match dans la deuxième manche, mais Andy Murray s'est réveillé. Et quand le numéro 4 mondial se réveille, ça fait mal.
Ouais, après, c'est un très très bon tournoi pour Joe. Premier tournoi sur gazon avant Wimbledon. Puis voilà, il a vraiment aussi le jeu maintenant pour gêner sur gazon, parce que comme on le dit, on l'a répété, le gazon était un peu ralenti, donc il peut servir très fort, faire le jeu avec son coup droit, et puis je trouve que voilà, il est content d'être sur le terrain, il est heureux, il vient bien vers l'avant, mais après voilà, il s'est heurté un Murray qui, mine de rien, après cette demi-finale à Roland-Garros, c'est bien ressaisi, pas de problème de petite cheville et tout ça, donc puis il a tout de suite réussi à bien placer son jeu sur gazon. C'est la seule différence, je pense, c'est que Murray défend mieux que Joe ne peut défendre, donc c'est peut-être là où s'est fait la différence sur cette finale.
Il a bien défendu, il a fait le show aussi, Andy Murray, avec quelques petits coups entre les jambes, notamment cette volée dans le troisième set. Il a totalement conquis, si seulement il en avait besoin, parce que on sait que en Grande-Bretagne, il est très suivi, Andy Murray. Il a d'autant plus conquis le public du Queens lors de cette finale.
Ouais, bon, après, de toute façon, c'est ce qui est sympa, c'est que on regrette parfois que les joueurs soient un peu trop stéréotypés, trop concentrés, appliqués sur ce qu'ils font. Mais bon, bah voilà, autant en profiter. Puis c'est vrai que le gazon, ce genre de coup un peu incroyable, s'y prête bien, donc c'est ça qui est vraiment sympa.
Et c'est vrai que on parlait donc d'Andy Murray. On rappelle que ce n'est que le deuxième à avoir remporté le tournoi du Queens deux fois de suite. Deux fois en tout cas. C'était en 2009 sa première victoire sur cette pelouse londonienne. Andy Murray qui, du coup, est-ce qu'on peut dire, Julien, se positionne comme l'un des favoris pour ce tournoi de Wimbledon qui se dessine, même s'il faisait déjà partie des grands noms de ce tournoi?
Je vous dirais non, parce que chaque fois qu'il y a un vainqueur du Queens, il ne gagne pas à Wimbledon. Donc,
il n'y a que 6 qui ont réussi cela avant éventuellement Andy Murray s'il venait à s'imposer à Wimbledon. Non, mais, le dernier, c'était Nadal en 2008.
Après, oui, c'est sûr que oui, il arrive pas en favori, mais en joueur qui peut aller très loin. Maintenant, une fois de plus, on a pu le voir sur les années précédentes à Wimbledon, il y a une telle ferveur et tout le monde l'attend qu'il y a une pression énorme sur ses épaules. Mmh. Donc moi, c'est sûr, en tant que numéro 4 mondial, moi je le vois bien arriver quart, même demi-finale, voire peut-être même une finale cette année. Mais voilà, il y a tellement de pression autour de lui. Moi, je trouve même qu'il, depuis quelques années, gère plutôt pas mal cette pression. Alors après, voilà, au moment de conclure, au moment d'être sur le terrain, c'est un peu plus dur, mais je trouve qu'il gère quand même pas mal l'histoire. Mais voilà, maintenant, il y a un Federer qui a pas fait beaucoup de bruit à Roland, qui, pour moi, je trouve, a retrouvé un niveau très très énorme. Y a toujours aussi, bien sûr, Rafa Nadal. Faut voir aussi comment va réagir un Novak Djokovic après cette défaite en demi à Roland. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Et puis peut-être même un joueur qui peut faire un peu un trou dans le tableau, a toujours un énorme service, un peu, bon, il fait pas quand même partie du top 10, mais peut-être un Robin Söderling ou un joueur comme ça, quoi.
Est-ce que Joe Wilfried Tsonga peut justement un petit peu bousculer cette hiérarchie? Lui qui, on l'a dit, vous l'avez précisé, Julien, a fait un très très bon tournoi en battant un certes fatigué, mais quand même vaillant Rafael Nadal lors de cette compétition. Est-ce qu'on peut compter sur un Joe Wilfried Tsonga revenu à son meilleur niveau?
Oui, après, si physiquement il tient, mais le petit hic de Joe, c'est que s'il joue un joueur, par exemple, comme un John Isner ou un Ivo Karlovic, ça va être dur, parce que pour moi, sur certains joueurs qui servent tellement bien, il se frustre un petit peu, et il a du mal à défendre et à faire le jeu, et voilà, et à accepter que l'adversaire peut lui mettre 3 aces par jeu. Donc c'est là où ça peut peut-être un peu tiquer, mais après, avec ce qu'il a démontré là au Queens, il joue aussi encore à Eastbourne cette semaine, j'espère qu'il ne va pas trop se cramer quand même avant Wimbledon. Mais voilà, c'est vrai qu'il peut pas mal jouer, comme d'autres Français peuvent très bien jouer aussi à Wimbledon.
Il joue dès aujourd'hui effectivement à Eastbourne, Joe Wilfried Tsonga, ce sera face à Denis Istomin. On va écouter justement Joe Wilfried Tsonga qui a vaillamment lutté, mais qui a dû céder face à Andy Murray en finale du Queens, 3-6, 7-6, 6-4.
Alors j'ai très bien démarré mon match, j'ai fait un super premier set, un très bon second aussi. J'ai eu des occasions pour gagner ce match. Dans le tie-break, il ne m'a pas manqué, je pense qu'il a fait un super tie-break aussi. Donc voilà, pas grand-chose à me reprocher. Je pense que j'ai joué mon meilleur tennis, je me suis donné à fond. Maintenant, il a juste été meilleur et ça fait deux fois que je perds en finale 6-4 au troisième. J'espère qu'il y a un moment, ça va passer. Il n'était pas beaucoup plus fort que moi. Je pense pas qu'il y ait non plus un fossé énorme. Mais bon, c'est vrai qu'il est très, très solide. Et voilà, et lui, il en a gagné déjà beaucoup plus que moi. Et donc, bilan général, plutôt pas trop mal. Voilà, maintenant, il faut continuer. On n'est jamais à l'abri de rien dans ce sport. Donc voilà, il faut essayer d'être bon dans les prochaines semaines. Et maintenant, je vais à Eastbourne demain et ensuite Wimbledon. Aujourd'hui, j'avais l'état d'esprit pour gagner ce match. Il m'a juste manqué cet état d'esprit sur une balle. Et voilà, c'est un peu dommage.
Voilà, il reste confiant, Joe Wilfried Tsonga, et il a raison d'être en tout cas. Rapidement, Julien.
Oui, après, c'est sûr que sur gazon, ça peut tourner très très vite dans un sens comme dans un autre. On sait pertinemment qu'en plus, encore un peu plus à ce niveau, ça se joue sur un ou deux points et il n'a pas tort de le dire.
Eh bien, merci beaucoup. Julien Varlet, l'une de nos voix tennis que l'on retrouvera bien évidemment jeudi dans Carrément Tennis en compagnie d'Eric Silvestro pour toute l'actualité de la petite balle jaune. Merci beaucoup, Julien. À très bientôt sur RTL L'Équipe.
Merci.
Carrément Sport,
un au hasard et chacun.
Toute l'actualité des tatamis avec la Fédération Française de Judo, c'est sur RTL L'Équipe.
La Fédération Française de Judo qui a du boulot en ce moment, ce matin en tout cas, avec la commission de sélection qui se réunit ce matin pour choisir les judokas et judokas qui participeront au championnat du monde au mois d'août prochain à Bercy, à Paris. Et nous sommes avec le responsable du haut niveau, René Rambier. Bonjour René.
Bonjour.
On a envie de dire que c'est le grand jour, hein, je le disais, pour tous les judokas et judokas français. Cette sélection pour les mondiaux qui auront lieu à Paris au mois d'août prochain. Rappelez-nous comment déjà, René, ça se passe la sélection. Comment va s'organiser cette matinée?
Oui, bah écoutez, donc cette matinée, nous avons un comité de sélection d'abord avec les masculins, donc avec tous les entraîneurs nationaux, plus bien sûr tous les gens qui composent le comité de sélection, avec son président Roger Bachon, le DTN, le président de la fédération aussi, bien évidemment. Et suite au comité de sélection masculin, bah on enchaînera vers 11h le comité de sélection féminin, pour ensuite cet après-midi, à 17h15, faire la conférence de presse pour présenter donc cette équipe de France qui va nous représenter au championnat du monde de Paris, au comité olympique.
Alors, on a vu des judokas, notamment, on pense à Morgane Ribou, revenir un petit peu sur le devant de la scène ces derniers jours. Certaines qui sont confirmées, pareil chez les garçons. Est-ce que le choix a été facile pour déterminer en gros les judokas et judokas qui seront présents dans cette sélection, sachant qu'on a droit aujourd'hui à deux représentants par catégorie?
Voilà, tout à fait. Avec deux représentants par catégorie, disons qu'il y a une certaine facilité, notamment pour, j'allais dire, le numéro 1 de la catégorie. En général, là, il n'y a pas de surprise. Mmh. Ou il peut y avoir peut-être des surprises. C'est lorsqu'il y a un choix à faire entre le numéro 2 ou un bis et le numéro 2 dans certaines catégories. A priori, il y aurait quand même un grand nombre de catégories qui seront faites aujourd'hui avec les deux représentants par catégorie de poids. Cependant, il y aura certainement une, deux, voire trois catégories peut-être où il y aura des... Et on attendra un petit peu encore le grand chelem de Rio de ce week-end pour affiner cette sélection.
Par quel choix? Ça serait par manque justement de compétitivité dans certaines catégories ou justement par un trop grand nombre de compétitivité?
Ben, ça peut être un petit peu les deux, hein, sachant qu'il y a un certain nombre de catégories où il y a des blessés, donc ils ne peuvent pas forcément défendre leur chance, donc où certains ils ont une chance supplémentaire. Et à eux de saisir cette chance. S'ils ne saisissent pas les chances, et ben, y a un choix sera fait suite à ce grand chelem de Rio.
J'imagine, René, que vous avez déjà commencé à parler un petit peu avec les judokas. Quels sont un petit peu les discours que vous leur avez tenus et que eux, justement, vous ont tenus? J'imagine que tout le monde est motivé pour aller se battre à Paris au mois d'août prochain.
Ah oui, bah écoutez, c'est quand même, j'allais dire, le critère de référence numéro un, c'est la motivation de combattre au championnat du monde à Paris. Donc tous les athlètes sont motivés. Le discours encore n'a pas été encore trop fait. Ils connaissent mon discours, et le discours des collègues entraîneurs. Cependant, lorsque cette sélection sera faite, nous allons débuter donc les stages de préparation pendant les deux mois qui nous restent. Et c'est là où on va enfoncer le clou, j'allais dire d'une façon presque quotidienne. Et tout ça, bien sûr, dans le plaisir et puis le relationnel avec les athlètes.
Est-ce qu'on parlait justement de certains judokas ou judokates qui sont soit revenus sur le devant de la scène, soit ont explosé un petit peu ces derniers temps? Est-ce que justement, René, certains de nos Français ou Françaises vous ont surpris, agréablement surpris ou même désagréablement surpris ces derniers jours, justement quelques jours, quelques semaines avant l'annonce de cette sélection?
Non, vous l'avez dit tout à l'heure, disons qu'on voit que Morgan Ribou, par exemple, au moins de 57 kilos, revient à un bon niveau. Donc elle est en phase de progression, alors que pendant de nombreux mois, elle était, disons, plutôt en régression. Mmh. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Certains athlètes aussi ont fait quelques résultats en World Cup et ont, marqué quelques points.
On pense à David Larose qui était avec nous la semaine dernière.
Voilà, il y a David Larose, donc il a une chance, avec le Grand Chelem de Rio, à lui de saisir cette chance. Parce que ce qu'il faut, c'est être prêt le jour J, et lorsqu'il y a une certaine pression... si vous voulez, hein. Le but, c'est d'être donc prêt le jour J et non pas d'être, de faire de bonnes performances lorsqu'il n'y a pas d'enjeu ou pas de grands enjeux. Et c'est ça la grande difficulté dans le haut niveau. Malgré la pression, c'est être présent ce jour-là.
René, on se doute bien qu'à moins mésaventure comme une blessure, normalement les cadres seront là. On pense à, notamment, je pense à Teddy Riner chez les garçons. Ou,
bien sûr.
J'imagine que tous les cadres seront là.
Bien sûr, bah, ceux qui, par exemple, de toute façon, il y a des critères de sélection. Par exemple, déjà, les champions d'Europe sont sélectionnés pour faire les champions du monde. Donc, déjà, on a un certain nombre de noms, comme Eman, Bona, Reiner, Montecos. Ça, il n'y a pas de souci. Les cadres seront là. Là, ça prend très peu de temps. La difficulté, c'est de choisir dans les athlètes qui. N'ont pas fait forcément les performances nécessaires ou qui sont en concurrence avec d'autres athlètes. Bah, c'est tout l'enjeu et c'est tout ce qui est motivant pour des cadres. C'est le choix d'athlètes par rapport à des sélections mondiales.
Est-ce que, René, pour conclure, on peut s'attendre à quelques surprises au niveau des sélectionnés dans cette liste pour les mondiaux? Peut-être pas pour un objectif de médaille lors de ces mondiaux, mais peut-être pour voir un peu plus loin. Et là, je me projette déjà vers notamment les Jeux de 2012.
Des surprises, moi, je ne peux pas vous dire, parce que le comité de sélection donc, est fait de telle façon que si jamais nous ne sommes pas d'accord, il y aura des votes. Donc, il peut y avoir un vote dans une catégorie ou deux. Les athlètes, nous les connaissons, il n'y a pas de souci.
Eh bien, merci beaucoup, René Rambier, responsable du haut niveau du judo français, d'avoir été avec nous ce matin, juste avant le début donc, de ces commissions d'évaluation et de sélection, surtout pour dévoiler cet après-midi donc, les sélections masculines et féminines pour les prochains championnats du monde qui se tiendront en France. Merci beaucoup, René, à très bientôt sur RTL L'Équipe.
Oui. Au revoir.
Carrément Sport sur RTL L'Équipe, l'actu judo.
L'autre actu judo, c'était les championnats de France par équipe qui se sont déroulés ce week-end et le carton plein, encore une fois, réussi par Levallois qui s'est imposé chez les garçons et chez les filles. On va en parler avec le tout nouveau président du club de Levallois, Jean-Marie Coustal. Bonjour Jean-Marie.
Oui, bonjour.
Alors j'imagine que pour un tout nouveau président, ça doit faire plaisir hein, de commencer comme ça avec des championnats de France par équipe dominés chez les garçons et chez les filles.
Ah tout à fait, oui, c'est plus que plaisir.
Avec du côté des garçons notamment, parce que c'était dimanche la dernière confrontation en date, cette victoire face à Sainte-Geneviève-des-Bois, 3-2 en finale, Sainte-Geneviève-des-Bois emmenée par David Larose, hein, qui était notre invité la semaine dernière dans cette page judo, une équipe de Levallois emmenée par Teddy Riner, Mathieu Daffreville, Benjamin Darbollet, qui ont vraiment, comme on dit, fait le boulot dans cette compétition. Hein.
Ben oui, effectivement, ils ont fait le boulot, ils ont fait claquer l'ancienneté, on va dire, même si c'est pour Teddy, c'est 21 ans, mais oui, ils ont fait le travail, tout à fait.
Comment est-ce que vous avez senti vos judokas et vos judokates? On a l'impression qu'il y a une certaine sérénité quand même qui se dégage, cette équipe de Levallois, qui semble quand même un cran au-dessus par rapport aux autres équipes en France.
Bah, cette sérénité, elle est travaillée tout au long de l'année. Hein. C'est un travail de longue haleine fait par mon entraîneur Christian Chaumont. Mmh. On a une âme avec Roger Vachon qui nous transcende aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est tout un groupe qui travaille, effectivement. Par contre, c'est la première année là, de passer à 5 combattants au lieu de 7. C'est la première année où tant mieux, on nous a posé beaucoup de problèmes. Et ça, c'est un point positif pour le judo français parce que malgré ce que vous dites, on a quand même tremblé. Même si on a deux grands champions, on a quand même tremblé. À 5, ça va très très vite.
Alors, on a parlé d'un Teddy Riner qui a gagné tous ses combats par ripon. 7 minutes seulement sur les tatamis ce dimanche. C'était également rassurant de voir un Benjamin Darbelay très bon et surtout un Mathieu Daffreville si longtemps blessé qui semble petit à petit vraiment retrouver son meilleur niveau dans les plus de 90 kilos. Hein.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est bon pour eux. C'est bon pour le club de Levallois et puis c'est bon pour le club France. Hein. C'est de bon augure avant effectivement ces échéances majeures qui arrivent, qui sont les championnats du monde et puis les Jeux Olympiques qui sont au bout de la route là pour tout ça là.
Et puis Jean-Marie, apparemment vous n'êtes pas assez bon encore. Il y a une nouvelle recrue qui va arriver de Maison Alfort, Dimitri Dragin, qui va également gonfler un peu plus les rangs du club de Levallois. Là aussi, c'est également dans sa catégorie l'un des tout meilleurs. Là, on rappelle qu'il est souvent en équipe de France, hein, Dimitri Dragin.
Ouais, tout à fait. Ben voilà, Dimitri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de passer de 7 concurrents à 5, ça nous oblige à être performants dans toutes les catégories. Donc nous étions un petit peu faible dans les moins de 66, donc Dimitri va venir nous renforcer. Et puis oui, effectivement, ouais, c'est de bon augure, même pour le club par rapport à la Coupe d'Europe. On espère gagner cette Coupe d'Europe dès cette année. Et donc, de ce fait, il nous fallait absolument un moins de 66, et Dimitri va certainement rebondir avec le travail que va lui faire faire Christian Chaumont.
Ça va être compliqué maintenant pour aller battre Levallois. Déjà que c'est compliqué avec le magnifique casting qu'il y a là-bas. Là, pour le coup, ça se complique d'autant plus. Hein.
Ouais,
laissez-en un peu aux autres quand même, Jean-Marie.
Oui, oui, on... Oui, oui.